Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée au commerce des armes. En 2013 était voté à l'ONU le TCA, le traité sur le commerce des armes, lequel est entré en vigueur à la fin de l'année 2014. Des étapes régulièrement évoquées dans Géopolitique. Nouveau coup de projecteur aujourd'hui, les éléments d'actualité ne manquent pas, en particulier avec les tragédies syriennes et yéménites. En 2019, les principaux importateurs d'armes légères et de petits calibres dans le monde se situent au Moyen-Orient, état des lieux avec nos invités. Tony Fortin, chargé d'études à l'Observatoire des armements, bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Et Benoît Muratchol, le président de l'association Action Sécurité Éthique Républicaine, LASER, auteur de « Quelles frontières pour les armes ?», paru aux éditions Pédone, bonjour.
Bonjour.
Le commerce mondial des armes se porte bien. Le volume des transferts internationaux d'armes majeures en 2014-2018 est supérieur de 7,8% à celui de la période 2009-2013 et de 23% par rapport à celui de 2004-2008, selon les nouvelles données sur les transferts d'armement qui ont été publiées le 11 mars dernier par le Stockholm International Peace Research Institute. En Afrique, c'est l'Égypte qui mène la danse. Les importations d'armes ont augmenté de 87% les 5 dernières années. Ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est important. Ça permet de poser le décor de la thématique de cette émission. L'Égypte, qui se classe même dans les 10 principaux pays importateurs d'armes au monde, avec 15% des achats d'armes derrière l'Arabie Saoudite, 33%, mais devant les Émirats Arabes Unis et l'Irak. Dans cette région, ce sont les États-Unis qui ont fourni 54% du total des transferts d'armes, devant la Russie, 9,6%, et la France, 8,6%. Je vais vous demander un commentaire à chacun. Est-ce que finalement, on peut dire que la période trouble et instable qui a suivi les attaques terroristes contre le World Trade Center aux États-Unis profite à l'industrie de l'armement? Tony Fortin.
Peut-être que même au-delà de la guerre contre le terrorisme, qui effectivement a provoqué une explosion des conflits, notamment au Moyen-Orient, on peut aussi souligner également des formes peut-être plus traditionnelles de conflits, à savoir le fait que ces conflits sont le produit de politiques de puissance qui viennent de nations, qui viennent d'émerger d'un point de vue militaire, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui ne faisaient pas des guerres il y a 10 ou 15 ans et qui se sont effectivement lancés au Yémen dans une opération militaire effectivement d'envergure, de la même façon que l'Égypte intervient en Libye et qui effectivement a permis d'armer effectivement l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, mais également l'Égypte ces dernières années. C'est les puissances occidentales, bien sûr, évidemment les États-Unis, mais dans le cas particulier qu'on évoque assez peu dans les médias, à savoir les Émirats Arabes Unis, on sait que depuis 2005, la France a vendu énormément d'armement aux Émirats Arabes Unis, que petit à petit, des sociétés d'armement françaises se sont installées directement à Abu Dhabi, à savoir les constructions mécaniques de Normandie, Dassault, Thales, etc. Et donc ça veut dire qu'on a fait le choix politique de construire l'appareil de défense émirati et évidemment d'être associé effectivement à sa politique de défense, à sa politique de domination militaire au Yémen, dont on voit aujourd'hui les conséquences. On voit en fait que on a beaucoup exporté d'armes parce que d'une certaine façon ces exportations étaient d'une certaine façon nécessaires au maintien de notre appareil de défense, mais en contrepartie de ces exportations il y a eu des échanges de technologies et petit à petit il y a une dépendance finalement à ces exportations d'armes qui s'est installée avec les conséquences dramatiques que l'on perçoit aujourd'hui le Yémen, qui est la plus grande crise humanitaire au monde et dans lequel de l'armement français utilisé dans le cadre du blocus, dans le bombardement des populations civiles. Et c'est pour ça que les ONG se mobilisent pour stopper ces ventes d'armes.
Alors, guerre du Yémen et politique de puissance de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Avant cela, il y avait la rivalité et la guerre entre l'Iran et l'Irak, par exemple, si on doit s'en centrer notre propos sur le Moyen-Orient. Benoît Muratchol.
Oui, alors je rejoins tout à fait ce que dit Tony Fortin. Je rajouterais bien sûr la question de la déstabilisation de toute cette partie du monde arabe avec la guerre en Afghanistan qui elle-même va avoir une continuité sur la guerre en Irak et qui a mis le feu à des régions entières. Je dirais que même un des pays qui a le mieux résisté aujourd'hui à cette déflagration, c'est l'Iran. Alors, Déflagration, ça veut dire que la Syrie d'abord, cette guerre en Syrie, et puis la guerre au Yémen. Et là, on voit bien que pour faire la guerre, il faut absolument l'alimenter, il faut des armes. Alors dans les armes, il y a les munitions, parce que la déclaration de la ministre des Armées, Florence Parly, est absolument hallucinante.
Elle ministre dit, française.
Elle dit, on a vendu, on a vendu des armes, mais on ne savait pas qui s'en servirait. Nous, les ONG, ça fait depuis plus de 20 ans qu'on dit, attention, quand vous vendez des armes, attention à leur usage. Parce que, de toute façon, les gens qui les achètent ne les achètent pas pour les laisser, les accrocher au mur. Et que, dans les arguments aujourd'hui donnés par le gouvernement français, il y a deux arguments principaux. Il y a le fait de dire, non, mais vous inquiétez pas, ça n'est pas directement utilisé à de graves violations des droits de l'homme. Et puis le deuxième point, c'est un argument terrible, qui est un argument économique qui ne tient pas non plus, qui est le fait de dire, il faut sauver l'industrie de l'armement européenne.
Alors, on viendra sur toutes ces questions. J'en reviens à mon propos d'introduction, Jean-Pierre Molny, sur le paysage dessiné quant aux importations, exportations d'armes. La question du World Trade Center était finalement, et la période instable qui a suivi, profitable à l'industrie de l'armement dans le monde.
Je situerais plutôt la reprise des ventes d'armes dans le monde après 2010. Parce qu'on avait plutôt des ventes d'armes qui étaient un petit peu étales dans les années 2000 et ensuite après la crise économique de 2008. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'heure actuelle, on a une reprise, une accentuation effectivement des ventes d'armes qui sont liées à plusieurs facteurs. D'une part, la reprise économique quand même. L'Europe se réarme. Ça a quand même des conséquences sur les ventes d'armes. Et ça, c'est lié à la fois au terrorisme et puis à cette crainte de la Russie. On a toujours des dépenses d'armement qui sont fortes en Asie du fait de la croissance économique. Et donc, pour les pays qui n'ont pas d'industrie d'armement, naturellement des acquisitions d'armement. Tant qu'à la situation au Proche-Orient, c'est une crise d'abord entre puissances régionales. Et notamment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Puis également Israël et l'Iran. Et là, effectivement, c'est un facteur propice à l'accentuation des ventes d'armes, sachant qu'on n'a pas réussi à mettre ces régions sous contrôle des exportations d'armement, comme ça avait été envisagé juste après la première guerre du Golfe, en 1991. Et puis, effectivement, on a les suites de l'explosion libyenne après 2015 et cette situation de quasi-non-droit qui règne, qui est très propice évidemment aux influences régionales, aux jeux régionaux et notamment au rôle de l'Égypte et donc aux ventes d'armes.
Alors, on viendra sur tout ce que vous avez évoqué, en particulier peut-être le réarmement de l'Europe. Jean-Pierre Molny, j'en parlais en introduction de cette émission, le traité sur le commerce des armes, voté en 2013. L'objet du traité, il est de promouvoir un commerce mondial plus transparent, responsable, mieux régulé. Je citerai Benoît Muratschol, l'action menée par votre association, l'association Action Sécurité Éthique Républicaine, qui a porté plainte contre le gouvernement français pour violation du traité sur le commerce des armes. Quel bilan peut-on faire de ce traité au jour d'aujourd'hui et quel défi pour le traité sur le commerce des armes ? Benoît Muratschol.
Déjà, c'est notre Action Sécurité Action Éthique Républicaine a saisi le tribunal administratif sur la violation de l'article 6 du traité sur le commerce des armes. C'est important de le dire, ça ne parle pas trop aux auditeurs, mais disons que jusqu'à maintenant, les États avaient l'habitude de travailler sur le risque d'usage des armes. C'est-à-dire qu'on vend des armes à un pays et, en général, les commissions, alors pour la France, c'est la CIEMJ, la Commission interministérielle d'études des exportations de matériel de guerre, donnent un avis pour dire, est-ce que ces armes risquent d'être utilisées avec un certain nombre de critères.
Pour préciser, Benoît Muratschol, l'accord est signé à un instant T, et ensuite, le délai, finalement, est assez long entre le moment où l'accord est signé, où Jean-Pierre Molny hoche de la tête.
C'est le contrat, contrat lui-même d'armement.
Oui, c'est-à-dire qu'une situation peut être changée, précise et évolutive, forcément.
Voilà. Ce que prévoit d'ailleurs le traité. Mais de cette culture qu'avaient déjà les grands pays exportateurs d'armes comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, on doit passer aussi à Une autre idée, c'est de dire, ben, quand la situation existe déjà, c'est-à-dire par exemple, depuis 2016, des rapports des Nations Unies, des ONG, disent qu'il y a des crimes de guerre, des graves violations de la Convention de Genève de 1949, des attaques dirigées contre les civils au Yémen. Donc on n'est plus dans l'évaluation, c'est-à-dire on n'est plus dans se dire, est-ce que les pays... Donc l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte. Est-ce que ces pays vont utiliser ou non les armes à de graves violations des droits de l'homme, puisqu'on sait qu'ils le font avec des rapports des Nations Unies. Donc c'est pour ça qu'on passe sur l'article 6 du traité, qui dit à ce moment-là, parce que l'idée du traité, quand on l'a conçu et amené aux Nations Unies, c'est d'être un traité préventif de ces problèmes. Donc là, on est dans une situation où les États ont connaissance de... ces crimes et doivent cesser toute exportation d'armes en direction de tous les pays de la coalition. Et ça, ce changement de paradigme, de type de pensée pour les États n'a pas encore été fait. Alors, bien sûr, au sein des ministères, des administrations, il y a des gens très intelligents et les gens ont bien compris de quoi il s'agissait. Mais le politique, pour des raisons stratégiques, globales, a décidé de ne pas entendre ces arguments. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le gouvernement a répondu au juge, hein, suite à notre plainte. Et qu'est-ce que dit le gouvernement? Il dit, bah, écoutez, les décisions d'exportation d'armes sont des décisions qui tiennent à la politique étrangère de la France, qui ne sont pas détachables de la politique étrangère de la France. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Le juge français n'a rien à voir, etc., etc. On oublie l'article 55 de la Constitution qui dit que les traités internationaux ont valeur supérieure à la loi française. On oublie également le traité des traités, le traité de Vienne et l'article 27 qui dit que en aucun cas les États ne peuvent faire valoir une loi interne pour refuser d'appliquer les traités qu'ils ont ratifiés. Enfin, tout d'un coup, on découvre une vision du 19e siècle qui apparaît dans la conception même de la politique du gouvernement français.
Alors, dans cette affaire et d'autres concernant le gouvernement français, on aurait aimé, et on avait proposé d'ailleurs à ce qu'un représentant du gouvernement puisse être présent à cette émission. Et malheureusement, les choses n'ont pas pu se faire. Tony Fortin.
Oui, j'ajouterais que les textes, effectivement, existent, hein, réglementant le commerce des armes. Et d'ailleurs, ces textes sont nés des pressions de la société civile, hein, suite à la guerre du Golfe, aux guerres en Sierra Leone, en Angola. Mais le problème, c'est qu'effectivement, le traité sur le commerce des armes, par exemple, ne prévoit pas d'autorité externe de sanctions qui permettent de sanctionner les États en cas de violation. Et donc, le débat aujourd'hui, il porte sur ça précisément. Comment faire pour que les États puissent être contrôler, sanctionner, que leur action puisse être d'une certaine façon encadrée. Et certains pays ont trouvé la parade depuis quelques années. Je pense notamment au Royaume-Uni, à l'Allemagne, à la Suède, qui ont mis en place ces 5-10 dernières années un contrôle parlementaire assez robuste des ventes d'armes qui permet effectivement aux députés d'avoir accès aux données classées secret défense sur les contrats d'armement. C'est notamment qu'en Allemagne, les parlementaires sont informés sous 2 semaines des licences d'armement qui sont accordées. En Suède, les parlementaires sont intégrés dans le conseil qui examine les demandes d'exportation d'armes. Mais ce dispositif n'existe pas en France ou dans une situation où le gouvernement et l'exécutif en général est à la fois en charge de la promotion des ventes d'armes et de leur contrôle. On est dans un système totalement schizophrène. D'ailleurs, les députés Véré, Cendrier, Martin, qui avaient fait un rapport sur le contrôle parlementaire au début des années 2000, disaient clairement que le système de contrôle de vente d'armes en France est une boîte noire qui appliquait des règles incontrôlées et incontrôlables. Donc il s'agit de se sortir de ce système. Et c'est le sens de la mobilisation des ONG ces derniers mois sur le Yémen. En janvier, une mission d'information a été mise en place à l'Assemblée nationale par la Commission des Affaires étrangères pour renforcer le contrôle parlementaire sur les exportations d'armes, dont les rapporteurs sont Jacques Maire et Michel Tabarot. Les ONG ont été auditionnées. Et dans un courrier qu'on a envoyé aux députés la semaine dernière, 9 organisations se prononcent en faveur de la mise en place d'une commission parlementaire de contrôle des exportations d'armes, telle qu'elle existe précisément en Suède et aux Pays-Bas, qui permettrait effectivement parlementaire de réaliser ce travail de contrôle de l'action de l'exécutif dans le domaine et des ventes d'armes, et peut-être plus globalement de la politique étrangère. Il s'agit de construire en quelque sorte une réelle démocratie parlementaire dans le domaine, afin précisément de contrôler et de limiter l'exportation d'armes.
Jean-Pierre Molny, un commentaire peut-être sur cette question du contrôle parlementaire et puis de la position de la France par rapport à ces ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, et on parlera aussi de l'Allemagne qui, elle, a demandé à l'ensemble des pays européens de suspendre tout nouveau contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite. La France qui ne dit pas grand-chose, c'est l'affaire Khashoggi qui a fait peut-être réagir l'Allemagne. En tout cas, ça crispe peu pas mal les partenaires européens de l'Allemagne, ce blocage de Berlin. Jean-Pierre Molny.
Les questions, en tout cas, je prends la dernière question. Les questions d'exportation à l'Allemagne, c'est pas lié à l'affaire Khashoggi. On sait qu'on a des discussions un peu difficiles, un peu compliquées avec les Allemands, mais depuis 2014, donc ça fait 5 ans, donc ça, c'est pas véritablement nouveau. Sur le contrôle parlementaire des exportations d'armement, tous les systèmes que vous décrivez, ce sont quand même des systèmes de contrôle a posteriori et pas de contrôle a priori. Y compris en Allemagne. En Allemagne, c'est le pouvoir exécutif qui décide. Après, effectivement, le Bundestag regarde. Le contrôle chez les Britanniques, moi je veux bien, mais enfin, les Britanniques sont dépendants à 63% de leurs exportations au Royaume-Uni, et les problématiques à l'heure actuelle, c'est les contrats d'Eurofighter avec l'Arabie Saoudite. Donc, contrôle parlementaire ou pas contrôle parlementaire, je pense que ça ne change absolument pas la situation au Royaume-Uni. Bon, maintenant, effectivement, en termes de contrôle parlementaire, on est dans une situation où on a nettement progressé, on va dire, par rapport aux années 90, puisqu'on a un rapport au Parlement sur les exportations d'armement. Je pense qu'on a un Parlement qui, jusqu'à, on va dire, ces dernières semaines, s'était pas assez saisi de son pouvoir sur ces questions-là. Parce que je pense que le Parlement a de lui-même une possibilité beaucoup plus grande de demander des informations et d'avoir justement des informations plus précises. Après, il y a la question qui se pose, effectivement, est-ce qu'il faut créer une commission spécifique sur ce sujet ? Vous citiez le rapport Cendrier, le rapport Cendrier avait écarté cette possibilité. Bon, mais la question aujourd'hui, effectivement, elle se repose. Reste un dernier point, une dernière question, qui effectivement est difficile à régler. Il faut bien voir qu'un matériel d'armement, tout au moins pour les plus importants, la durée de vie, c'est 30-40 ans. Donc, on peut vendre des armements à un pays à une époque donnée, et effectivement, se retrouver dans une situation qui n'est plus celle du moment où on avait exporté.
Le matériel surgit au régime.
Et là, je peux vous donner, mais alors des exemples. Bon, attendez, les exemples, je peux vous donner, mais il y en a un très grand nombre. Nous avions vendu des sous-marins à l'Afrique du Sud à la fin des années 70. Il y a un sous-marin qui nous est resté dans les mains parce que effectivement, on pouvait plus le vendre. Il y a l'Irak, naturellement, en 1988, à qui on vendait des armes, et du jour au lendemain, on a cessé de vendre des armes à l'Irak, mais les armes qu'on avait vendues aux Irakiens ont continué à être utilisées.
On a
l'Argentine avec le Royaume-Uni au moment des Malouines. C'est quand même un Exocet qui a coulé une frégate britannique. Et à ce moment-là, nous avons aidé les Britanniques d'ailleurs. Donc, c'est une vraie difficulté. Et quand on a une difficulté, la question c'est quelle est la solution ? Je dirais qu'on peut prévoir une situation en termes de prospective politique, on va dire peut-être 4-5 ans à l'avance, et encore. Puisque les armes qu'on a vendues aux Émirats Arabes Unis et à l'Arabie Saoudite, on va dire entre 5 et 10 ans, on ne pouvait absolument pas prévoir que la situation allait se dégrader avec l'Iran et qu'on se retrouverait avec une guerre au Yémen. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on a un moyen, à un moment donné, de dire aux pays à qui on a vendu des armes, écoutez, dans des conditions spécifiques, nous pouvons mettre en place des clauses de restriction d'usage, voire d'interdiction d'usage des armements, pour des armements qu'on a vendus au préalable. C'est une question qui est difficile à régler, y compris en termes de rapports diplomatiques avec les pays à qui on vend des armes.
Et qu'on l'on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission, c'est promis. Nous retrouvons après le journal Tony Fortin, Jean-Pierre Molny et Benoît Muratiol. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le commerce des armes. Nous retrouvons nos invités Tony Fortin, chargé d'études à l'Observatoire des armements, Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, et Benoît Muratchol, président de l'association Action Sécurité Éthique Républicaine, l'ASER, et auteur de « Quelles frontières pour les armes ?», paru aux éditions Pédone. Nous avons quitté la première partie de l'émission sur deux thèmes à débat et on n'a pas pu terminer. L'un, c'était la question du contrôle parlementaire. Tony Fortin, citer en exemple l'Allemagne et la Suède où il y a un véritable contrôle parlementaire sur les questions de vente d'armes par rapport à la situation qui prévaut en France. Et puis ce qu'évoquait Jean-Pierre Molny sur la question qui se pose dans les ventes d'armes, en l'occurrence les deux pays dont il était question, c'était l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, avec la guerre au Yémen et la polémique autour de la vente d'armes à ces pays qui viennent donc alimenter ce conflit yéménite. Est-ce qu'on a les moyens, demandait Jean-Pierre Molny, de demander aux pays avec lesquels on signe un accord de vente d'armes d'imposer des conditions spécifiques, des clauses de restriction d'usage des armes. Benoît Muratchol.
Oui, alors sur la question du contrôle parlementaire, je rejoins absolument Tony Fortin pour la Suède et l'Allemagne. Il y a un vrai travail, et il y avait un vrai contrôle et il y a un vrai débat dans ces pays, justement, sur... qu'est-ce que cela implique, non seulement en termes droits de l'homme, droit international humanitaire, mais aussi en termes économiques, et puis sur la place de l'Allemagne dans le concert des nations. Juste un petit rappel historique, en 97, des ONG françaises, nous avions fait une demande de la création d'un office parlementaire. C'est vrai que aujourd'hui on a un contrôle a posteriori, mais déjà un contrôle a posteriori serait un immense pas en avant. Et puis surtout, ça pose la question de pourquoi au fond la France continue d'avoir honte de sa politique de vente d'armes. Qu'est-ce qu'elle aurait à cacher au fond aux représentants des citoyens et aux citoyens eux-mêmes? Il doit y avoir des points noirs. Et dans ces points noirs, bien sûr, il y a la question de la Libye, on l'a vu, puisque même l'ancienne ministre de la Défense, Madame Alliomarie, a reconnu que dans les troupes qui descendaient vers Bamako sous la présidence de François Hollande, eh bien, il y avait des armements français. Et ces armements français avaient été livrés au groupe armé anti-Gaddafi en 2011. Donc, bien sûr, quand on transfère une arme, hein, parce que c'est pas seulement la vente, ça peut être le prêt, ça peut être le don, eh bien, cette arme-là ne s'arrête pas du jour au lendemain de fonctionner. Par contre, pour faire fonctionner une arme, il y a deux éléments qui sont absolument essentiels. Pour par exemple, les chars Leclerc qui sont utilisés aujourd'hui autour de Dedaï au Yémen, eh bien, il y a un travail de maintenance qui doit être fait de façon continue, et cette maintenance est assurée par la France, alors qu'elle a connaissance qu'il y a des crimes de guerre, grave violation de la Convention de Genève de 1949. Et puis, il y a les munitions. Les munitions sont des armes. Et un fusil d'assaut sans munitions, c'est du bois et du fer, ou du plastique et du fer, et ça ne va pas plus loin. Donc, cette question de la longévité des armes, elle est absolument essentielle. La technologie est tellement avancée aujourd'hui qu'il faut continuellement ce travail de maintenance, de mise à jour de ces armes. Donc, on aurait absolument les moyens techniques aujourd'hui de les empêcher de nuire auprès des populations civiles.
Tony Fortin, un commentaire. Et après ça, j'aimerais qu'on passe juste, puisqu'on parle de contrôle parlementaire, à la décision du Sénat américain concernant précisément le soutien militaire de Washington à la coalition internationale dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Tony Fortin.
Oui, j'ajoute effectivement en nuançant les propos de Jean-Pierre Molny que c'est pas forcément une question de pas savoir en fait ce que les armes, dans quelles conditions elles peuvent être utilisées 20 ou 30 ans après leur utilisation. Parce que si c'était une question de savoir, de la possibilité qui a pu être utilisé dans un conflit, c'est vrai que on mettrait fin à ces contrats de maintenance qui sont renouvelés et régulièrement et peuvent être tout à fait suspendus. Et c'est notamment le cas effectivement des frégates qui sont impliquées dans le blocus maritime du Yémen, parce qu'il faut savoir que la flotte saoudienne et émiratie est composée en très grande majorité de frégates françaises. Et non seulement on maintient en condition opérationnelle ces frégates à l'heure actuelle, notamment à Jeddah en Arabie Saoudite, mais en plus on vend de nouveaux patrouilleurs, on prévoit de vendre de nouvelles corvettes notamment aux Émirats Arabes Unis. On sait qu'il y a un réarmement par rapport à la flotte de ces deux pays, et on sait également que les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite aujourd'hui se positionnent par rapport à l'Est de l'Afrique. On peut parler de la société Total qui a des intérêts pétroliers aussi par là-bas. Et on peut s'inquiéter effectivement de la possibilité d'une guerre future et d'une stratégie, là encore, navale, qui pourrait encore impliquer des navires ou des corvettes qui seraient effectivement vendues par la France, puisqu'il y a un réarmement au niveau naval qui est extrêmement inquiétant. Et c'est précisément là où effectivement les parlementaires ont un rôle à jouer. C'est pas évidemment quand les armements sont livrés, c'est trop tard. Mais par contre, il faut que, au moment du débat autour des licences d'exportation, des prises de commandes, qu'on puisse évaluer les risques que ce matériel puisse être utilisé pour faire des guerres. Enfin, je veux dire, le matériel militaire, il sert à faire des guerres. Donc, il faut à tout prix permettre effectivement ce débat-là. Et c'est pour ça que, précisément, on est favorable, nous, à l'Observatoire des armements, pour précisément que ce travail des parlementaires s'oriente vers les destinations sensibles. Parce qu'on sait bien que le Moyen-Orient est une région en crise depuis des dizaines d'années, ça remonte pas à hier en fait. Donc ça veut dire qu'un principe de précaution doit être mis en place pour un certain nombre de destinations dont la liste pourrait faire l'objet d'un débat régulier, par exemple entre les parlementaires et le gouvernement.
Alors, Jean-Pierre Molny, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis n'ont pas de problème économique, ils peuvent payer les armes qu'on leur vend. La question pour l'Égypte se pose un peu différemment.
Oui, tout à fait. La question pour l'Égypte se pose effectivement un peu différemment. Donc il y a une partie des contrats effectivement qui sont engagés par les Saoudiens sur les ventes d'armes à l'Égypte. Pour revenir à peut-être aux propositions qui sont faites, je reviens sur la question du contrôle parlementaire et puis de manière générale sur les ventes d'armes dans la région. Sur le contrôle parlementaire, c'est vrai qu'on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait un débat, on va dire pas de politique générale, mais de politique générale sur les ventes d'armes au Parlement français, qui ne serait pas un préalable aux licences d'exportation, mais qui au moins donnerait certaines lignes directrices. Et ensuite, on pourrait imaginer effectivement qu'il y a une commission qui soit un petit peu plus spécialisée pour connaître un petit peu plus en détail les licences d'exportation qui sont données. Parce que de manière générale, si on regarde sur le temps long, il est évident qu'on est dans une société, et c'est tout à fait normal, qui demande de plus en plus de transparence et qui demande de plus en plus à ce qu'on légitime les actions de nature politique. Or, les ventes d'armes, c'est une action de nature politique. Et si on regarde d'ailleurs depuis les années 80, on a globalement une progression en termes de transparence et du contrôle du Parlement sur les exportations d'armement. Mais je pense qu'effectivement, la période est venue peut-être d'aller un peu plus loin sur le sujet. Pour ce qui est de l'Arabie Saoudite et de la région et du conflit yéménite, là, il faut qu'on transforme ce qui est aujourd'hui une faiblesse des exportateurs en une force. C'est-à-dire, alors je sais bien que là on rentre dans les questions politiques, mais c'est peut-être aux Britanniques, aux Américains et aux Français de se mettre d'accord pour dire aux belligérants, écoutez, maintenant il faut trouver une solution politique, il faut stopper cette guerre, parce que sinon on va couper le robinet. Je pense que c'est ça la bonne pratique, il faut replacer la question des ventes d'armes dans la question de la résolution des conflits et de la stabilité internationale, parce que fondamentalement, c'est de l'intérêt de personne que ce conflit yéménite continue.
Vous ramenez là, finalement, dans cette région, les puissances que sont les Britanniques, les Français, les Américains, là où on dit que finalement, c'est un terrain qu'ils désertent de plus en plus parce que leurs intérêts sont ailleurs.
S'ils vendent des armes, c'est bien quand même aussi qu'une partie de leurs intérêts sont dans la région. Non, je pense que les grandes puissances peuvent aussi avoir une action positive sur les conflits régionaux. Et là, politiquement, ils pourraient l'avoir.
Sur la question de la paix et de la sécurité, ce sont deux mots que tous les États que vous avez cités mettent en avant en disant, voilà, les exportations d'armes doivent profiter à la paix et la sécurité, et profitent à la paix et la sécurité. Quand on regarde un petit peu historiquement comment ça se passe, ben je me souviens par exemple de ces armes très importantes, livraisons d'armes au Soudan du Sud dans les années 2010, et nous on avait prévenu fin des années 2000, début des années 2010, on avait dit attention, il y a beaucoup d'armes qui sont livrées au Soudan du Sud, et il y a un risque de guerre. Non, vous inquiétez pas, au contraire, ça va être la paix et la sécurité. On sait aujourd'hui ce qu'est le Soudan du Sud. C'est-à-dire que le Soudan du Sud, ce sont deux camps qui se font la guerre depuis la déclaration d'indépendance. Donc, est-ce que à chaque fois, les États vont nous resservir cet argument de la paix et de la sécurité et continuer d'envoyer des armes qui sont exactement à l'encontre de cette idée de paix et de sécurité? Ou est-ce que ils vont considérer, et ça c'est une des discussions que j'ai eues notamment beaucoup avec Jean-Pierre Molny, à ce que, comme le dit d'ailleurs le traité dans le préambule du traité sur le commerce des armes, la paix, la sécurité et les droits de l'homme sont interdépendants. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir de paix sans sécurité, on peut pas avoir de droits de l'homme sans la paix, on peut pas avoir de sécurité sans les droits de l'homme, et que les droits de l'homme ne sont pas un concept qui est intéressant de mettre sur un tableau accroché au ministère des Affaires étrangères ou à l'Élysée, mais bien concevoir les droits de l'homme comme une stratégie à moyen et long terme. L'histoire nous dit ça. Alors, que les États aient toujours fonctionné et en réactivité sur les questions de violence, soit. Mais peut-être qu'aujourd'hui, avec notre capacité d'analyse, de regard, la prise de conscience des sociétés civiles, de dire les choses s'en renversent, et maintenant, cet argument qui nous semblait dépassé ou du moins décoratif qu'étaient les droits de l'homme vient véritablement s'inscrire dans une véritable stratégie. Il y a quelque chose d'absolument incroyable, c'est le non-dit sur le poids économique que font peser cette industrie de l'armement sur les pays du Sud, mais aussi sur les pays du Nord. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on augmente en France, par exemple, le budget de la défense pour vider les hôpitaux des infirmiers, pour faire en sorte, pour voir des centres où on accueille des gens qui ont vécu en France et qui ont droit à un respect. Maintenant, on ne peut plus s'occuper d'eux parce qu'on a préféré, enfin, le gouvernement préféré mettre en avant l'industrie de l'armement.
C'est la gestion des priorités.
Aux États-Unis, voilà, aux États-Unis, un centre de recherche a fait une estimation au budget de militaires des États-Unis à 1 000 milliards de dollars. 1 000 milliards de dollars. C'est presque 3 milliards par jour. Et on sait aussi que il y a aujourd'hui des risques d'une crise systémique économique bien plus importante que ce qu'on a connu en 2008 qui se pose. En sachant également que l'Arabie Saoudite, qui je crois a à peu près 35 millions de personnes, achète autant d'armes à la France que l'Inde. L'Inde, c'est plus 1 milliard de personnes. Donc là, il y a des différentiels que les industries de l'armement devraient commencer à anticiper parce que on va là aussi, de ce point de vue-là, dans le mur.
Tony Fortin, oui, rapidement, et après ça, on parlera un tout petit peu de l'Afrique, c'est important, et de l'Europe qui se réarme.
J'ajouterais que dans le cas français, mais c'est peut-être à l'instar des États-Unis, ce qui est quand même extrêmement dommageable, c'est de voir la place du militaire dans la stratégie de rayonnement et d'influence française. On sait notamment que la guerre contre les terroristes, c'est pas la raison pour laquelle, effectivement, la France vend des armes à des pays comme l'Égypte. Si l'Égypte achète des armes à la France, c'est parce qu'elle souhaite acheter son silence, sa complicité par rapport à la répression. Et l'armement qu'on vend à l'Égypte est pour une partie directement orienté vers le contrôle de la population des civils. Qu'on pense aux blindés Sherpa Light qui ont été adaptés aux rues notamment arabes et qui sont équipés de caméras qui visent à 8 km et qui permettent de surveiller les manifestants, du satellite qui permet de détecter des mouvements de foule, notamment au Caire, au système Morpho de Safran qui organise le fichage biométrique des Égyptiens et déclenche des alertes auprès des opérateurs de renseignement, sans parler évidemment dans la catégorie des biens double usage qui sont absolument pas soumis au contrôle des systèmes d'intrusion dans les des communications des Égyptiens de type Amesis, Aircom qui ont été vendus ces dernières années, avec pour quel résultat depuis 2013 60 000 opposants politiques, journalistes, homosexuels homosexuels effectivement emprisonnés en Égypte. Donc à un moment donné, ça veut dire aussi qu'il y a une configuration du matériel militaire qui est orienté contre la répression des populations civiles en Égypte. Vous avez d'ailleurs une petite brochure du JICAT qui est intitulée « Gestion démocratique des foules ». Vous vous rendez compte de ce que ça peut signifier pour un citoyen égyptien, le contrôle des foules dans le régime d'Al-Sisi aujourd'hui ? Et le problème, c'est que par cette voie militaire, la France entend bien aussi gagner des contrats économiques, notamment dans le golfe de Suez, avec effectivement les centrales EDF qui sont en construction, ou au niveau du barrage de la Renaissance en Éthiopie, ou General Electric Hydraulique. C'est qu'en fait, on fait dépendre un système quasiment, je vais dire, de prédation économique qu'on arrime à nos ventes d'armes, qu'on arrime au poids, effectivement, du militaire dans la stratégie d'influence française. Et c'est ça qui est dangereux et c'est ça qui doit être questionné, puisqu'effectivement, les ventes d'armes représentent quand même assez peu dans le total des exportations françaises. Le total des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, c'est 0,4%. Donc, ça veut dire que la question est éminemment politique. Et c'est pour ça que le débat, il est verrouillé au niveau de l'exécutif. Si c'est une question politique, eh ben, on ne doit pas ouvrir effectivement l'espace à la société civile et aux députés, parce que si on l'ouvre, eh ben, c'est la fin, quoi. La réalité peut s'exprimer. Quand on a travaillé sur la loi sur la violation des embargos, effectivement, il y a quelques années sous le mandat de François Hollande, et qu'on a fait renforcer cette loi, et qu'un député, pour Yamir Chahi, introduit des formes de contrôle parlementaire, pourquoi ça a été bloqué au gouvernement ? Ben, on nous l'a expliqué au ministère des Affaires étrangères. C'est parce qu'on ne souhaitait pas ouvrir ce débat-là. Il est temps, enfin, que chacun prenne ses responsabilités, qu'on puisse pérenniser ce débat-là sur les ventes d'armes en France, de façon à réorienter et éviter que ça alimente des zones de crise.
Alors, question éminemment politique, je crois que vous êtes vraiment d'accord, Jean-Pierre Molny, et vous-même, Tony Fortin, sur ces ventes d'armes, question politique. Je voudrais redonner quelques chiffres sur l'Afrique, ça me semble important, simplement pour dire que, alors que les ventes d'armes majeures au niveau mondial ont augmenté de 7,8% entre 2014 et 2018, les importations d'armes par les États africains ont diminué de 6,5%, toujours selon le dernier rapport du CIPRI, le Stockholm International Peace Research Institute. Ce sont les pays d'Afrique du Nord, l'Égypte, on vient d'en parler, l'Algérie et le Maroc qui concentrent le plus gros des achats du continent, alors qu'en Afrique subsaharienne, le Nigeria, l'Angola, le Soudan, le Cameroun et le Sénégal viennent en tête. Jean-Pierre Mauny, pour terminer cette émission, quelques mots sur l'Europe qui se réarme.
Ben oui, effectivement, l'Europe se réarme depuis, on va dire, 3-4 ans. Alors, c'est pas un réarmement massif, hein. C'est des progressions de 1 pour 1%, 2% des budgets de défense. C'est lié au double phénomène, ben, pour la France, des attentats terroristes de 2015. Et puis, d'un sentiment, on va dire, de tous les pays du nord de l'Europe, d'une menace russe. Et tout ça, c'était un peu concrétisé lors du sommet de l'OTAN de 2014, avec cet objectif pour les États de l'OTAN de dépenser 2% du PIB pour la défense. Bon, c'est pas un réarmement massif. Je reviens peut-être un petit peu sur l'Afrique. Il faut faire attention aux données chiffrées, parce que ce qui se passe, c'est que vous avez des pays qui sont des importateurs nets et que vous avez quelques pays qui, certaines années données, importe un nombre important d'armements. Donc vous pouvez avoir des fluctuations qui sont non significatives en fonction des grands pays qui vont acheter des armements qui coûtent très cher une année.
Donc les importations qui diminuent.
Voilà, c'est ça. Enfin, un dernier point, le grand vendeur d'armes en Afrique, ce sont les Chinois, avec de plus en plus des drones armés notamment.
Benoît Muratschal, très très rapidement, vous souhaitiez dire un mot, ce sera en guise de conclusion. On n'a pas le temps de développer sur la Chine en Afrique, on le fait beaucoup sur les questions économiques. Peut-être que ça mériterait une émission sur les questions militaires. Benoît Muratschal, très rapidement.
Simplement, le vote du Sénat états-unien et de la Chambre des représentants, les États-Unis qui sont signataires du traité
sur le commerce des armes,
sur le commerce des armes, vont peut-être donner le ton pour les Occidentaux à réfléchir sur, à réorienter leur politique d'exportation d'armement en direction des pays de la coalition qui interviennent dans cette guerre au Yémen.
En tout cas, c'est un sujet à l'actualité très mouvante. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Tony Fortin, je rappelle que vous êtes chargé d'études à l'Observatoire des armements. Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS. Et Benoît Muratchol, président de l'association Action Sécurité Éthique Républicaine et auteur de Quelles frontières pour les armes aux éditions Pédon. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Kevin Thiebaud, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, vous retrouverez Chantal Leroux. À très bientôt.